On est d'accord. Et est-ce qu'il y a déjà... Vous l'avez ouvert il n'y a pas longtemps. C'était quand, là, l'ouverture?
Il y a eu l'inauguration début avril, exactement.
Ouais. Et ça a pris combien de temps pour le construire?
Alors, 2 mois.
Seulement.
2 mois de travaux. Bah, c'est que des éléments naturels. La terre était principalement sur place, les cailloux aussi. Il a fallu amener un peu de bois. Mais ouais, c'est l'entreprise Trailworks qui a été au top pour ça. Merci encore et bravo à eux.
Ouais, ils ont bien bossé, ouais,
ouais,
effectivement.
Ils ont été super efficaces et super pro. Et ce qui est chouette, c'est que c'est au sein de cette entreprise, c'est que des tout bons descendeurs VTT.
Ah mince, ah, c'est dommage, on a joint l'utile à l'agréable.
Non, mais du coup, ils font leur boss de manière à ce que ça passe bien. On risque pas, enfin, c'est pas conçu pour que ça casse au milieu, quoi. C'est vraiment fluide, c'est conçu pour rouler bien, vite et bien, et puis lentement aussi si on veut, enfin voilà, il y a vraiment pour tous les niveaux.
Et là aussi je vois un parallélisme avec par exemple les snowparks qui sont très souvent dessinés par des professionnels du freestyle, justement ben, pour éviter d'avoir des réceptions trop dures ou bien d'avoir des longueurs trop courtes par rapport à la réception, c'est-à-dire que ben, y a une sécurité en plus parce qu'il y en a d'autres qui savent ce qu'ils font, qui l'ont dessiné.
Exactement, après ça n'empêche pas que quand on y va, il faut savoir mesurer ses compétences et puis pas se lancer n'importe comment.
C'est important de rappeler.
Mais c'est un bike park qui est vraiment génial pour ça, parce qu'on peut y aller tranquillement et se faire plaisir, et puis progresser, puis s'exercer, on fait une petite boucle pour essayer de trouver le truc, et puis quand on comprend, on va un peu plus loin.
Bon, bah, on va approfondir un petit peu justement ces petits modules dans un tout petit moment. Je te propose qu'on fasse une courte pub. J'ai choisi une chanson, on va la voir tout de suite.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Va des rétro, ananas.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
Ah, bah c'est tout de suite beaucoup plus clair.
Un bike park, c'est un terrain sur lequel on peut pratiquer du VTT avec des virages relevés, des sauts, un wall ride, des bosses dans un milieu naturel. C'est gratuit, en tout cas à Fuy, où le bike park a ouvert début avril. Et dans ce bike park, on a même des tutos qui vont apparaître très prochainement, histoire d'apprendre en toute sécurité et en fonction de notre niveau à comment se comporter avec un VTT quand on se trouve plutôt dans un milieu montagne. Alexandre Reduit, tu es membre du comité du bike park de Fuy. Comment ça se fait que cette idée, elle vous est venue de faire ces petits tutos? Je faisais tout à l'heure le simil avec les tutos qu'il y a dans les parcours Vita où on apprend à faire les choses, à faire les exercices. Ça vient d'où?
Alors, il y a vraiment l'idée de que ce soit un bike park didactique qui serve pour s'entraîner, pour améliorer son niveau, pour aller plus loin ensuite sur des sentiers. C'est un bike park qui est fait aussi avec des jeunes qui sortent tout juste de l'école. L'histoire, elle est assez sympa. En fait, c'est des jeunes de Fuy qui aimaient bien faire du VTT, qui construisaient des sauts un peu sauvages dans la forêt. Ils se sont fait reprendre par la police. Et puis, c'est Olivier Brand, qui est professeur au cycle de Fuy, qui s'est dit, mais c'est bête, il y a une énergie, il a envie de faire du sport, donc on va essayer de canaliser ça. Puis à partir de là, on a monté ce projet. Donc ces jeunes-là sont maintenant, font partie intégrante de notre comité.
Ah ouais?
Et puis exactement, ouais, c'est top. Le but, c'est vraiment qu'ils ont réfléchi au projet avec nous et puis ils continuent à le porter. Il faut entretenir le bike park, il faut aller arroser les haies qui ont été plantées au bord, etc. Enfin voilà, il y a du job d'entretien, donc c'est ce comité qui fait ça. Et puis les jeunes vont aussi s'occuper de ces petits tutos, des petits tutos vidéo qu'on va retrouver sur des QR codes qui seront là où il y a tous les petits modules d'exercice.
Alors ça, je trouve déjà la démarche, elle est super, parce qu'effectivement ces jeunes, ils allaient de toute façon aller faire les bouquetins avec leur vélo par là. Ben là, on les a non seulement donné la possibilité de faire dans un endroit un peu plus sécurisé entre guillemets, mais aussi on leur a donné la possibilité de eux sécuriser ceux qui viennent après.
Exactement. Et puis les sauts qui sont faits au bike park, c'est fait par des pros, donc c'est aussi plus intéressant pour eux au niveau vraiment purement pratique du VTT. Ils se font plaisir beaucoup plus, ouais.
Donc c'est ça, donc non seulement ils se font plaisir, donc non seulement ils ont moins de risque de casser le cadran de leur vélo et de se faire mal, mais en plus de ça, ils le font avec un monstre kiff. Et puis moi je vois un petit peu la similitude avec je sais pas si tu te rappelles les circuits de vélo qu'on avait avec la police quand on était enfant, où on tournait autour d'un mini rond-point où il y avait des rues qui étaient simulées. En fait, il y a un petit peu un côté comme ça aussi au bike park de Fuy.
Oui, c'est vrai. Et quand on a lancé le projet au tout début, la police de Fuy a soutenu la démarche officiellement.
Ah ouais.
Parce qu'en pensant justement à ce côté apprentissage, sécurité, on peut s'exercer sur le bike park à bien rouler en VTT. Et je pense que ça, un entraînement sur un bike park permet moins d'accidents ensuite quand on va sur les sentiers.
Ouais. Ah oui, c'est un peu comme, je sais pas, c'est simplement prendre des cours, quoi. Forcément, on va être plus préparé. Du coup, est-ce qu'il y a des écoles qui l'utilisent, ou bien déjà celle de Fuy peut-être?
Alors c'est prévu. En tout cas, le cycle d'orientation de Fuy va venir avec les profs de sport s'exercer, c'est sûr. Et puis d'autres écoles sont les bienvenues. On a aussi plusieurs guides qui se sont annoncés, qui vont venir avec leurs clients exercer peut-être un petit passage précis pour ensuite pouvoir faire une sortie où il faut maîtriser telle ou telle manière de faire.
Ah, donc des guides de VTT qui proposent des balades en montagne.
Exactement.
Et puis qui, en fonction de la balade, ils savent qu'ils vont avoir un point un peu plus où ça va demander plus d'équilibre, ou bien ça va demander peut-être plus de frein ou plus de résistance dans les bras. Il va aller utiliser les tutos, les emplacements d'entraînement dédiés, enfin, qui correspondent à ses besoins.
Exactement. Voilà. S'il faut maîtriser la manière de sauter, ben, on a plusieurs sauts à plusieurs hauteurs différentes. Et puis, on fait plusieurs fois la boucle, on s'entraîne, on peut s'entraîner à la position, etc.
Et si une école, par exemple, je pense aux écoles de la région ou même plus loin, mais s'il y a une école qui se dirait, moi j'aimerais bien l'utiliser, où est-ce qu'il faudrait contacter ?
Alors, il faut contacter l'association Fuy Bike Park, il y a un site, hein, fuybikepark.ch, où on retrouve aussi le lien avec l'office du tourisme de Fuy, on peut passer par là, par Fuy Tourisme.
Et toi, tu fais du vélo ?
Un petit peu.
De ton expérience à toi, il est cool comment le bike park ?
Ouais, il est trop cool. Moi, j'ai pas un grand niveau, mais je me fais quand même plaisir. Je fais pas des sauts, je m'amuse. Ouais, je m'amuse déjà. J'y vais avec mes enfants, qui sont certains andrésiennes. Ils se font plaisir aussi. Et puis, en fonction des âges, il y a vraiment pour tous les niveaux, tous les âges.
Est-ce qu'on peut dire quand même que pour pratiquer ce genre de sport, on peut rappeler que la sécurité passe avant tout, casque, genouillère, coudière, ce genre de trucs ?
Ah bah oui, c'est sûr qu'il faut se protéger, ouais.
Parce qu'on est dans la nature, hein, les cailloux ça peut faire mal, la terre ça peut râper aussi, et le bois pareil.
Oui, et puis il faut pas se lancer sans maîtriser ce qu'on fait. Enfin, si on va n'importe comment à fond sur un saut, c'est sûr qu'on peut se faire mal. Ouais.
Surtout qu'on va pouvoir profiter de ces tutos. Pour moi, c'est vraiment le truc de ce bike park, parce que finalement, aller s'amuser, tout le monde peut le faire. Mais là, on peut aller le faire intelligemment. C'est pas trop bien, ça ?
Ouais, c'est trop bien.
Bon, Alexandre Audy, on est arrivé au terme de cette interview. Je te remercie vraiment d'être venu nous expliquer ce que c'est qu'un bike park, en l'occurrence celui de Fuy. Je rappelle que tu es membre du comité du bike park de Fuy. Merci infiniment et je te souhaite une excellente soirée. À bientôt.
Merci et bienvenue à tous.
Radio Chablais, programme de nuit.
C'est chaud. Sur le grill.
Une lesnoude se prépare pour le concours de Miss Suisse francophone, c'est prochainement, on va en parler avec justement la candidate qu'on a envie de soutenir et qui, on espère bien sûr, va gagner, Alizée Delgado, bonjour.
Bonjour Cyril.
Alors nous expliquez déjà, c'est quoi brièvement, le concours Miss Suisse francophone ?
Alors Miss Suisse francophone, c'est un concours qui existe depuis 2012, on est à la 13e édition, qui réunit garçons et filles de toute la Suisse.
Donc c'est Mister et Miss.
Les deux en même temps, exactement. Contrairement à d'autres pays. Et voilà, c'est un concours de beauté pour lequel la beauté physique ne représente que 30%. Le reste, c'est beaucoup de la personnalité. Et on est très actif sur une période de 9 mois environ. Donc on est déjà bientôt à la finale.
Alors justement, la finale, c'est quand et où ?
Alors, ce sera dans la région lausannoise.
On
c'est
pas
la
droit de
seule
dire
chose
encore.
Que j'ai le droit de vous dire. Ça sera le 30 juin.
Le 30 juin en région lausannoise. Alors, maintenant, justement, puisque on est bien d'accord que vous êtes une très jolie femme, mais comme ça, on ne représente que 30%, on va s'occuper des 70% restants. vous êtes qui, Alizée ?
Moi, je suis en Suisse depuis près de 10 ans. J'habite à Lézin. Et je me suis présentée à ce concours complètement par hasard. Et plus j'y avance, plus ça me plaît. Donc j'ai rencontré des personnes formidables.
Mais alors pourquoi justement on s'inscrit à ce concours ? Qu'est-ce qui donne envie ? C'est de se challenger un petit peu ?
Il y a le challenge.
C'est ça, il y a un esprit de compétition en fait quand même derrière un peu.
Au début pas, mais ça vient gentiment par la suite.
Ouais. Ouais.
Mais pour ma part, c'était un pur hasard de passer devant à l'instant T.
Ouais.
Et ça s'est fait comme ça, j'ai passé les présélections, puis la demi-finale, et entre 600 et 700 candidats, plus que 31 filles à ce jour.
C'est pas mal pour l'ego.
Exactement, une fois qu'on en est là, on y reste.
Gentiment. Bon alors, vous êtes active dans quoi ? Déjà, c'est quoi votre métier ? Puis ensuite, c'est quoi vos passions ?
Alors moi, je suis réceptionniste de base, je travaille en hôtellerie à Lézin.
Ah ouais, ouais.
Et sinon, le ski, c'est pas très
le ski,
original.
Alors là, on finit la saison, et puis après le reste de l'année, les randonnées, les balades, qu'est-ce que vous aimez
Exactement.
Faire ? Qu'est-ce qui vous passionne ?
Alors, les randonnées, beaucoup de marches, beaucoup de sport, et je crois que vivant à Lézin, il n'y a pas mieux pour
aller se balader. Il y a largement de quoi s'occuper. Alors, Loïc développera prochainement dans son émission le sujet du concours en lui-même. Vous, maintenant, alors justement, comment on se prépare pour ce concours ? Qu'est-ce qu'il faut faire ?
Je pense que chacun a ses petits trucs et
tips.
Astuces. Exactement. Je dévoilerai du coup pas tous les miens ici. Mais c'est en tout cas pour ma part beaucoup de travail.
C'est-à-dire
Ben, je me suis entourée.
Il faut apprendre à défiler, il faut apprendre à se mettre en avant.
Exactement. Okay. Exactement. Je fais de la danse juste à côté, à Monthey. Okay. Je me suis beaucoup entraînée avec un prof au niveau du défilé. J'ai un tapis de course sur lequel je marche en talons tous les jours.
Pardon, c'est génial.
C'est une excellente façon d'apprendre.
Je connais bien votre mari, qu'on salue d'ailleurs. Et franchement, je vais le mettre au défi de m'envoyer une vidéo de ça.
Mais je m'en occupe.
Alors, donc il y a tout un coaching. Juste rappeler, on va faire une petite pause musicale. Comment on découvre le concours? Comment on suit votre actualité?
Les réseaux sociaux, ouais. Premièrement. Principal biais de communication, c'est les réseaux sociaux. Donc la page de tous les candidats et la page de Mister et Miss Francophone, ouais. Le site internet. J'en profite pour rappeler que les inscriptions 2025 sont ouvertes.
Ok.
Et les réseaux sociaux.
Bon alors, on va aller suivre tout ça. Vous restez bien avec nous, Alizé Delgado, future Miss Suisse française.
C'est chaud. Sur le grill.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
C'est chaud. Sur le grill.
Toujours avec nous, Alizé Delgado, candidate Miss Suisse francophone. Le concours, ce sera le 30 juin prochain en région lausannoise. On peut suivre le concours de Miss Suisse francophone, bien sûr, sur le site internet, sur les réseaux sociaux. Alizé, on a parlé de préparation tout à l'heure. Forcément, je me suis bien marré quand j'entends dire que vous vous entraînez en marchant avec des talons sur un tapis de course. Ah, je trouve le concept génial et je me réjouis de voir la vidéo. Mais plus sérieusement que ça, vous avez dit, hein, c'est de la danse, il y a de la prépa. Alors, ça peut prêter à sourire. Forcément,
oui.
Mais en même temps, ben non, parce qu'il faut être parfaite, et on l'a dit en début d'émission tout à l'heure, en début d'interview, c'est un vrai concours, il faut prendre ça au sérieux, on ne gagne pas juste en y arrivant tranquille, les pieds en l'air. Quoi.
Je ne pense pas non plus qu'aucune des 31 filles qui restent, aussi jolie soit-elle, soit née avec une paire de talons. C'est comme tout, il y a tout qui s'apprend, il y a tout qui se travaille, en tout cas pour ma part,
ouais. La
force du travail m'a amené beaucoup de choses, il y avait beaucoup de qualités que je n'avais pas, et que j'ai dû aller chercher par le travail en m'entourant de coachs, de profs, d'aides.
En développant justement tout ça. Puis c'est intéressant parce que ça permet aussi d'apprendre à se connaître soi-même. C'est un challenge personnel. Donc ça veut dire qu'on se met un peu, quoi qu'il arrive, dans le dur. On doit se forcer à faire certaines choses, travailler en fait, bêtement.
Exactement, et ça demande du courage. Mais on ne parle pas assez de ce que ça donne en retour. Ça demande du courage,
alors,
mais ça
voilà.
Donne
qu'est-ce
énormément
que ça
de
apporte
force. Énormément de force. Alors bien sûr, un peu de confiance en soi.
Ce qui n'est pas plus mal.
Ce qui est toujours le bienvenu, suivant la personnalité de chacun, mais en tout cas c'est toujours le bienvenu. Des relations, des liens d'amitié qui se tissent absolument extraordinaires, parce qu'on est tous dans une aventure qui dure 9 mois finalement, avec lesquelles on va partager des choses hyper
c'est
hyper
ça, passer
proches,
du temps et autres. Ouais.
Passer beaucoup de temps, il y a énormément de shooting, de défilés, de promo tours. On est partout dans la région, on va jusqu'à Berne, Fribourg, le canton de Neuchâtel.
Que ce soit les hommes ou les femmes, hein, vous êtes tous et tous ensemble et au taquet.
Exactement, alors le concours, il réunit les filles et les garçons,
ouais.
Contrairement à d'autres pays. Et nouveauté de cette 13e édition qui va se passer à la finale, vous aurez du coup la chance d'avoir Miss et Mister Suisse francophone 2024, mais également... Et ça, c'est une super nouvelle. Une représentante de chaque canton. Donc, vous aurez le retour de Miss
cool.
Canton de Vaud, Miss Valais, Miss Neuchâtel. Ça, c'est la grande nouveauté de cette année. Et c'est une très bonne, très, très bonne nouvelle. C'est très fédérateur.
Puis alors, même pour vous aussi, justement, peut-être d'aller découvrir des endroits, de se mettre dans le dur aussi par rapport à des lieux. Il faut se mettre en avant, il faut avoir envie de se mettre en scène, entre guillemets. Là aussi, il y a un travail de confiance en soi, un travail de mise en avant.
Exactement, ça demande beaucoup de courage. Il y a toujours, en tout cas pour ma part, je ne vais pas mentir, 4-5 bonnes minutes de bon stress juste avant. Mais une fois que les événements sont partis, généralement on est pris dans l'ambiance et c'est assez chouette. Le concours est bien accueilli. Dans la majorité des cas, les gens sont contents de nous voir, sont contents qu'on soit là. Il y a aussi beaucoup de familles qui viennent nous soutenir, donc les parents, les copains, les amis, et ça c'est hyper chouette. Donc finalement, non, il y a beaucoup plus d'agréable que de... Le stress est vite oublié une fois qu'on est dedans.
Alors justement, ce sera ma dernière question. Au niveau familial, au niveau entourage, comment les gens ils appréhendent ça? Qu'est-ce qu'ils en pensent? C'est quoi les retours?
que, en tout cas pour ma part, que du positif. Des copines qui sont à fond sur les réseaux sociaux.
Qui partagent, qui soutiennent.
Oui, des parents
qui sont fiers.
Qui sont fiers, oui.
Bah ouais, ouais. Forcément.
Les photos. Non, non, c'est très chouette. Puis c'est très fédérateur. Même moi, j'habite Lézin, qui est un petit village de station.
Ouais.
Les gens sont là, ils sont tout contents. J'ai beaucoup de soutien. Donc ça, c'est hyper chouette aussi.
C'est une belle mise en avant, alors, aussi pour vous, mais de pouvoir parler de sa région, comme vous l'avez fait, hein, et justement, et puis de se dire, bah, regardez, moi, je viens de ce coin de pays, c'est hyper chouette.
Oui, si j'ai l'occasion d'en parler,
bah là, vous en profitez aussi.
À travers ce concours, j'en profite aussi, oui, ça, c'est sûr.
Bon, alors, on rappelle, on vous suit, Miss Suisse francophone, le concours, sur les réseaux, sur le site internet, le résultat, quand vous gagnerez, ce sera le 30 juin prochain à Lausanne, on l'annoncera en tout cas, et puis on rappelle aussi, vous serez bientôt en émission avec Loïc, justement, aussi, pour présenter le concours en lui-même. Merci, Alizé.
Merci à vous, mais si je gagne, je reviens.
Eh ben, on espère avec la petite écharpe et tout.
Exactement.
Merci beaucoup. Plein succès, à bientôt.
Sur le grill.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Radio Chablais.
Le nombril du monde.
Bienvenue chez nous.
C'est plus grand que ce que je croyais.
Le nombril du monde. Eh, on a trouvé un endroit à l'abri du vent. Je savais pas que ça existait sur cette commune, parce qu'on est à Doréna, c'est un peu le pays des éoliennes. Yasmine Ballet, ma très chère guide, bonjour.
Bonjour.
Bon, pour cette première capsule, je voulais que tu me parles d'un endroit particulier. Alors déjà, ici, on est à côté du téléphérique. Il y a un énorme bloc erratique qui nous cache du vent, c'est ça.
Exactement, on est dans un petit coin privilégié au pied du téléphérique, sous les châtaigniers qui sont pas encore trop en fleurs, à l'abri du vent, et on est tip-top. En plus, il fait beau.
En plus, il fait beau, c'est vrai, ces derniers jours, c'était pas le cas. Bon, tu voulais me parler d'un endroit qui se trouve sur les hauteurs de la commune de Doréna, du côté de Champé ou à l'Est.
Alors, du côté de Champé, hein, je vais juste resituer au niveau géographique. Donc, il y a le village de Doréna qui est en plaine, le hameau d'Alès vers les 900 mètres et le hameau de Champé qui est vers les 1100 mètres. Alors, la curiosité touristique, on appelle ça le creux à loup. Ou le cralou, comment ça vient du patois.
C'est un... C'était comment en patois?
On disait le cralot.
Nous,
on dit encore le cralot, ouais.
C'est beau.
Ouais, alors.
C'est beau le patois, personnellement j'adore. Et qu'est-ce que ça veut dire le cralot?
Alors c'est le trou à l'ours. C'est un ancien piège à ours qui a été fait au 18e siècle à peu près. Donc il est vraiment encore bien fait, on le voit bien quand on se balade dans les folataires. C'est une fosse circulaire qui a été empierrée. Donc il y a vraiment un trou avec une pierre et tout, assez grand, je pense à peu près 2 mètres de diamètre en tout cas. Et puis avant, ils mettaient une chèvre, un animal, ils recouvraient de branchages, et puis c'est ainsi qu'ils attrapaient l'ours qui tombait dedans, puis qui ne pouvait pas remonter, et puis ils le tuaient, quoi. Voilà, ils se défendaient.
Oui, c'était une autre époque, on est d'accord aussi. Déjà, il y avait des ours.
Voilà, il y avait des ours, et puis bah, c'était assez, probablement assez dangereux pour la population, et ils en avaient peur, donc ils ont senti ce besoin de piéger ces ours. Donc cette curiosité, on la trouve au début d'une magnifique balade à travers les folataires. Je dirais que c'est une balade que j'apprécie parce qu'elle commence tranquillement. On peut se parquer à Doréna, monter en téléphérique, donc ça commence assez gentiment. Là, on a une vue magnifique sur la vallée, jusque quand il fait beau, on voit le lac Léman. Et puis après, gentiment, c'est une balade qui va descendre à travers la réserve nationale des folataires jusqu'à Branson.
Ah ouais, c'est juste, il y a une réserve nationale ici.
Voilà, une réserve fédérale des folataires. Elle est aussi inscrite, les folataires et le Mont-Rosel, c'est inscrit à l'inventaire fédéral des paysages. C'est quelque chose de précieux. C'est un endroit assez particulier. Les folataires, c'est dans cette réserve, on trouve... Je dirais a priori plus de 200 espèces de faune, de fleurs qu'il n'y a pas ailleurs. Des endroits, je dirais, au niveau des espèces animales, on a des oiseaux qui sont vraiment en danger dans toute l'Europe, qu'on retrouve là. On peut penser au torcol fourmillé, au traquet tarier. Actuellement, on a un hibou grand-duc qui niche.
Oh.
Il y a quelques observateurs qui sont là, qui l'observent un petit peu, qui observent le nid et tout. Et puis, si on a de la chance, on peut voir le vol du gypaète qui vient de Derborens.
Oh, et je crois même que il y a des gens qui ont découvert une nouvelle espèce de plante ici il n'y a pas longtemps.
Alors, effectivement, au niveau des plantes aussi, je pense qu'il y a maintenant le fameux bulbocode qui fleurit dès janvier, qui est bien connu. On a aussi plein d'autres fleurs. C'est un endroit où on a beaucoup de balades de la part de gens qui apprécient les balades. On a aussi des chercheurs, notamment des chercheurs de l'EPFZ, qui viennent et qui étudient. Et il y a quelques années en arrière, ils ont découvert encore une plante, c'est le petit pois de Fuilly. Et je ne sais pas s'il était là déjà avant, en tout cas, il a été répertorié il y a seulement une dizaine d'années.
Waouh, le petit pois de Fuilly, ah dommage, non, ça aurait dû être celui de Dorène.
Ouais, effectivement, mais on ne sait pas, hein. Ils sont toujours là, ils étudient, donc peut-être qu'il y aura une plante de Dorena spéciale.
Dorena, toute la semaine au programme du Nombril du Monde.
Radio Chablais.
Le Nombril du Monde. Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Un goût amer signale un végétal toxique. Et comme les légumes sont un peu amers, on les rejette. Ce serait un réflexe inconscient pour éviter de s'empoisonner. Donc c'est pas que le petit dernier vous enquiquinez, c'est juste un réflexe inconscient, qu'on se le dise. Le chocolat, lui, c'est un aliment de grande qualité malgré tout, bourré de minéraux. Ça stimule le cerveau, ça chasse les idées noires. À condition, on est d'accord, d'en manger peu sous forme de chocolat noir, car le chocolat au lait, lui, contient beaucoup de sucre et de graisse. Mais c'est celui que préfèrent les enfants, et Tuck, qui en avale 15 grammes par jour en moyenne, soit 6 kilos par année, et qui adore le chocolat. Notre corps, en fait, raffole du sucre, considéré comme une récompense. Et pour le gras, il y a sans doute là les vestiges d'un réflexe très ancien, celui de stocker de la graisse en prévision de périodes difficiles, de périodes de famine. Bref, en résumé, nous fonctionnons encore comme des hommes préhistoriques. Alors que nous ne risquons pas depuis belle lurette...
Radio Chablais, programme de nuit.
Le geste du jour.
Donc un peu de piment.
Ah oui, mais quel bon geste !
Sur Radio Chablais.
On va parler de détox ou de tri, si vous voulez. Et je me demande parfois, franchement, s'il n'y a pas une génération spontanée de stylos et autres crayons qui se clonent, c'est pas possible autrement. On a des dizaines de crayons tout genre, on les trouve un peu partout dans la maison, là rien de nouveau, dans les sacs, dans la voiture. Et compte de l'histoire, c'est que à chaque fois que tu as besoin d'un crayon, que tu cherches un crayon, tu le trouves, mais alors, ou tu le trouves pas, ça c'est pire, des fois tu cherches partout, tu trouves pas, mais alors tu le trouves et il marche pas. T'as beau l'essayer, il marche pas. Alors, je suis certaine que ça vous est déjà arrivé, on est bien d'accord, c'est énervant, ça nous énerve, ça sert à rien de s'énerver, c'est pas très serein, c'est pas efficace, mais ça va être fini pour vous, parce qu'un crayon qui ne marche pas, au lieu de le mettre à la poubelle souvent, qu'est-ce qu'on fait? On le remet là où on l'a trouvé, ou alors on le pose ailleurs, ce qui est totalement débile, vous êtes d'accord? Donc ça peut plus durer, donc on va faire une détox. Donc, la prochaine fois que vous prenez un stylo qui ne fonctionne pas, qui a l'extrémité mâchée, ou alors qui est tout baveux, vous vous dites, je le mets immédiatement à la poubelle. C'est une sorte d'opération coup de poing, si vous voulez, une détox de stylos et de crayons, et recrutez vos enfants pour vous aider à la chasse aux crayons. Déjà, c'est amusant, et puis en plus, ça va peut-être les sensibiliser aussi à les ranger et en prendre soin. Alors, ce que vous faites, petit 1, c'est vous collectez, vous traquez tous les crayons dans toute la maison et vous les déposez tous ensemble dans un sac ou dans une boîte ou sur la table. Ensuite, vous purgez, c'est-à-dire que vous essayez chaque crayon sur un bout de papier ou sur une enveloppe récupérée où vous voulez et vous triez. Alors, vous jetez, vous éliminez, mais sans état d'âme. Hein. Ceux qui ne fonctionnent pas, si vous en avez à triple, vous n'arrivez pas à le tailler. Bref, tous ceux qui ne font pas, qui vous plaisent pas, allez hop, via. Vous regroupez ensuite les crayons de même couleur et de même nature, feutre, crayons de couleur, stylos et tout. Et après, vous organisez, vous déposez un tas de crayons dans différents endroits que vous estimez être judicieux. Par exemple, un crayon dans un sac à main, dans la voiture, à la cuisine, à un salon, mais pas 10 000. Et puis après, vous créez une boîte ou des trousses avec des crayons que pour les enfants. Ou alors une trousse personnelle. Et vous en avez aussi en réserve, parce que le jour où celui que vous avez laissé à la cuisine ne fonctionne plus, vous le jetez et vous en prenez un nouveau. Alors ça paraît un peu cucu ce que je vous dis, je suis d'accord. Mais franchement, mettez-vous, soyez honnête, vous êtes d'accord que ça vous est déjà arrivé. Vous cherchez, vous trouvez pas, vous cherchez, ça ne fonctionne pas. Donc maintenant, vous allez être beaucoup plus serein. Et si on vous donne un stylo promotionnel, résistez à la tentation, parce que vous allez le laisser traîner, puis vous serez reparti dans la sphère infernale. Je ne sais pas vous, mais j'ai le sentiment qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez voir le crayon ou le stylo d'une autre manière.
Le geste du jour.
Donc un peu de piment.
Ah oui, mais quel bon geste !
Sur Radio Chablais. Bonne nuit sur Radio Chablais. Suis.
Voici les titres du journal. Pour les 10 ans de la caserne de Vouvry, l'association des communes du Haut-Lac a ouvert ses portes ce week-end au programme Initiation aux activités des services de sécurité de la région. Un nouveau chapitre s'ouvre pour l'Unihockey sur la Riviera. Hier à Saint-Léger, l'UHC Jauny et les Raptors de Vevey ont célébré leur fusion, l'occasion de dévoiler l'identité visuelle du nouveau club. Dorian Godon a remporté la dernière étape du Tour de Romandie au sprint hier, mais c'est l'Espagnol Carlos Rodriguez qui s'impose au classement général, très disputé tout au long de cette édition.
Pour la météo, un temps moins en partie ensoleillé pour ce lundi. Demain, un temps assez ensoleillé avant le retour dans le courant de l'après-midi des nuages. À noter le retour du feu demain. Météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Guillaume Abbé. Bonjour Guillaume.
Bonjour Axel, bonjour tout le monde. Expérience de la voiture tonneau, simulateur de tir au pistolet, extinction de feu avec les jeunes sapeurs-pompiers ou encore sauvetage en hauteur. Voilà des exemples d'initiation proposées à la population du Haut-Lac ce week-end à l'occasion des 10 ans de la caserne de Vouvry. L'association des communes du Haut-Lac, la CHL, a ouvert ses portes aux intéressés le temps d'une journée. L'occasion de découvrir les activités des services de sécurité de l'association. Les explications du président de la commission sécurité de l'Assemblée des délégués de la CHL, Jacques Mété, accompagné par le président Gingolet, Damien Roch.
C'est une opportunité unique pour la population de voir le travail des gens qui assurent la sécurité 24 heures sur 24 de la commune. Donc ils pourront voir le matériel, ils pourront assister à des démonstrations. L'état-major de conduite va montrer les points de réunion d'urgence, c'est-à-dire c'est en cas de catastrophe comment la population doit se comporter. Également, il y a des ateliers sur la prévention incendie, donc on peut apprendre à éteindre une friteuse aujourd'hui par exemple. Bien sûr pour les enfants, c'est un peu animé, château, etc. Et il y a la partie samaritain, parce que les samaritains, on les oublie, mais c'est quand même un maillon important dans la chaîne d'intervention, puis aussi dans la sensibilisation aux gestes de premier secours. Donc.
Il y a aussi la PIHL, la police intercommunale du Haut-Lac, qui a aussi une voiture tonneau, on peut tester une voiture tonneau.
Ouais, j'allais le dire, c'est le premier truc qui a marqué mon attention quand je suis arrivée, une voiture un peu dans les airs. Le concept, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est de pouvoir tester l'impression qu'on a quand on a un accident. Et ouais, c'est assez impressionnant.
L'idée, c'est de montrer aux gens que s'ils n'ont pas la ceinture, ben voilà, quel est l'effet dans la voiture.
Damien Roch et Jacques Mété étaient au micro de Julie Gay. La police intercommunale, le centre de secours et incendie, les Samaritains ainsi que l'état-major de conduite régionale du Haut-Lac composaient les divers services présents samedi à Vouvry. L'homme qui avait dénoncé des cas de maltraitance au sein d'un EMS à Saxon a écopé de 50 prisons fermes. Le tribunal de première instance du 3e arrondissement pour les districts de Martigny et de Saint-Maurice l'a reconnu coupable de plus d'une dizaine d'infractions, notamment d'escroquerie, de calomnie aggravée et de faux dans les titres et dans les certificats. Le trentenaire qui s'était prétendu infirmier ne pourra plus non plus exercer une activité professionnelle ou non impliquant des contacts réguliers avec des personnes particulièrement vulnérables pour une durée de 10 ans. Pour rappel, l'affaire débute en 2020 avec un témoignage dans l'émission mise au point de la RTS. L'accusé y dénonce des cas de maltraitance à l'encontre des résidents d'un EMS à Saxon dans lequel il avait été employé comme infirmier. En juillet 2023, après enquête, l'EMS est blanchi par la justice et l'administration cantonale. Le nombre de cas de maltraitance infantile constatés dans les cliniques pédiatriques suisses s'est élevé à 2097 en 2023, un niveau jamais atteint auparavant. Cette augmentation de 13% sur un an s'explique par l'amélioration du recensement.
Que faire des statues ou autres œuvres provenant de notre héritage colonial ?
Une question que se posent aujourd'hui de nombreuses communes. Confrontée à une peinture murale raciste dans une école, la ville de Berne l'a déplacée dans son musée d'histoire. Elle a donné carte blanche à un collectif de militants pour gérer le projet. Après de nombreuses oppositions, des difficultés techniques et financières, le résultat est là. L'exposition Résistance, comment aborder le racisme à Berne a ouvert ses portes jeudi dernier. Le collectif tenait à placer cet objet colonial au musée plutôt que de le contextualiser sur place. Les explications d'Isabelle Barros, historienne et membre du collectif.
Il était déjà contesté à plusieurs reprises, déjà aux années 80 par exemple. Il y en a des parents d'enfants, des enseignantes et enseignants à l'école qui ont remis en question la présence de cet objet dans l'école. Donc c'est une école primaire. Ils ont essayé de trouver des initiatives sur place, mais sans aucun succès. Donc, par exemple, à un moment donné, ils ont essayé de coller sur la lettre N un Nashorn, qui est un rhinocéros, pour essayer un petit peu de cacher l'image stéréotypée d'une personne noire. Il y en a eu des expériences et finalement ça n'a pas abouti à quelque chose de concret. C'est pas aux enfants et au corps enseignant de faire cette expérience, de contextualiser, d'avoir cette responsabilité. C'est la responsabilité de la ville, c'est la responsabilité de toute la société.
Des propos recueillis par Marie Vieumier, l'exposition se replonge dans les conditions de réalisation de cette peinture coloniale, mais elle questionne aussi notre rapport à l'histoire et au racisme, à voir jusqu'en juin 2025 au musée d'histoire de Berne. À l'étranger, le comité international de la Croix-Rouge ne remplacera pas l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Le CICR a déjà suffisamment à faire sans chercher à se substituer à d'autres organisations, affirme aujourd'hui son directeur Pierre Krenbull. Les efforts pour parvenir à une trêve dans cette guerre entre Israël et le Hamas à Gaza semblent avoir progressé hier. Le mouvement palestinien affirme n'avoir relevé aucun problème majeur quant à une dernière proposition de cesser le feu. À une quinzaine de jours de la course à la Palme d'Or, le 77e Festival de Cannes a annoncé aujourd'hui la composition de son jury, dont fait partie Omar Sy. Le festival, qui se tiendra du 14 au 25 mai, a choisi 4 hommes et 4 femmes qui officieront sous la présidence de la réalisatrice Greta Gerwig, figure du cinéma d'auteur américain devenue reine du box-office avec Barbie l'an dernier. En sport, en football, invaincu durant ce mois d'avril en première ligue, le FC Monté s'est offert une manita hier. Les Chablaisiens se sont imposés 5-0 sur la pelouse de Port-Alban Glétran. Grâce à ce succès, les joueurs de Lucien Desnervaux grimpent au 12e rang du classement et prend 12 points d'avance sur le premier relégable Puy. Et le Veuve Sport, 5e, s'est pour sa part imposé 2-0 face à l'équipe qui occupe la 2e place, les moins de 21 du FC Sion.
En février dernier, l'UHC Journy et les Raptors de Vevey avaient annoncé leur fusion.
Le nouveau club Unihockey Riviera Journy-Vevey est désormais prêt à s'imposer sur la scène sportive régionale et c'est mercredi le 1er mai qu'il sera officiellement actif pour marquer pleinement cette nouvelle étape de vie. Une journée de fête était organisée hier à Saint-Léger-la-Chiesa, l'occasion d'échanger sur les enjeux du sport dans la région mais surtout de dévoiler la nouvelle identité visuelle, symbole de l'avenir de cette pratique sportive sur la Riviera. Un programme qui a réjoui Marc Chapuis, actuel président de l'UHC Journy et futur co-président du nouveau club.
Beaucoup, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de plaisir aussi à voir l'engouement qu'il peut aussi y avoir autour, alors aujourd'hui du dévoilement, mais aussi pour la suite. On a eu beaucoup aussi de retours positifs, puis c'est des choses aussi qui nous portent et c'est des choses qui nous permettent aussi de sentir qu'on est dans le juste et puis qu'on... Voilà, le fait de prendre du temps, le fait de réfléchir, et ben finalement, ça parle aussi aux gens. Donc ça peut que nous réjouir.
Prendre du temps en collaborant, c'est ce qu'ont fait les deux clubs de Journy et Vevey durant 4 ans avant de fusionner. Alors à savoir si cette dernière était finalement une issue attendue, l'actuel président des Raptors de Vevey et futur co-président du nouveau club, François Chapuis, a sa réponse.
Au départ, si on nous avait dit qu'on fusionnerait aujourd'hui, on n'aurait peut-être pas cru. Mais effectivement, plus le temps a avancé, plus les choses se sont mises ensemble, plus on a compris que ce qu'on faisait portait en fait les gens et puis développait notre sport et c'était positif. Bah, pour nous, c'est devenu de plus en plus rapidement une évidence qu'il fallait qu'on puisse renforcer nos collaborations, ce qui s'est traduit par une fusion qui aujourd'hui paraît évidente effectivement. Et puis c'est pour ça qu'on est d'autant plus réjouis d'y être arrivé.
Un sujet préparé par Julie Gay.
Le Français Dorian Godon a remporté hier au sprint la cinquième et dernière étape du Tour de Romandie à Vernier.
Au classement général, par contre, c'est l'Espagnol âgé de 23 ans, Carlos Rodriguez, qui s'impose au terme de cette ultime étape pluvieuse et mouvementée. Car avec 5 coureurs en 30 secondes, la course était loin d'être jouée avant le départ. Le commentaire à ce sujet de Richard Chassot, directeur de la manifestation.
C'est vrai que c'était humide et mouillé, mais un accueil très chaleureux de la région. Sur le parcours, un public très présent, avec beaucoup d'animation, des décorations. Donc une bienvenue au Tour de Romandie qui était fantastique. On avait déjà fait un premier départ ici à Vernier pour les femmes l'année passée en septembre. Et là, on a vraiment... c'est un gros projet, hein, départ et arrivée. Et puis un parcours un peu spécial pour une course par étape, parce qu'on a fait un circuit de 40 km dans la campagne genevoise. Mais le mauvais temps, je pense, nous amenait deux choses. Premièrement, une forme de classique, donc dans le sport, vraiment quelque chose qui était encore un suspense jusqu'à la fin, qui était difficile à gérer pour les équipes qui étaient à l'avant. Donc un peu de tension, un peu de suspense jusqu'au bout. Et puis évidemment aussi de montrer que la campagne genevoise, c'est pas plat. Les coureurs ont dû vraiment faire attention à pas perdre le Tour de Romandie sur cette dernière étape. Aller le gagner, il fallait attaquer. La situation de course avec un coureur d'Ineos et deux coureurs de Bora, 7 secondes ou 9 secondes derrière, était vraiment pas gagné pour Ineos. Par chance, j'ai envie de dire pour eux, ils ont une équipe qui est très très forte, solide. Ils savent gagner des grandes courses par étapes. Rodriguez est un solide champion, un solide leader. Et puis, il y avait plein d'attaques. C'est toujours difficile de tout maîtriser. Et puis, dans le final, on l'a vu, hein, ça attaquait encore dans le final jusqu'au dernier kilomètre. Donc, pour un leader, c'est toujours... Voilà, on est, mais nous, la dernière étape reste une étape. On veut qu'elle soit disputée dans une manière sportive.
Des propos recueillis par nos confrères de OneFM et Radio Lac.
L'actu en continu à radiochablais.ca. Bonne nuit sur Radio Chablais.
Mais...
Blanc, large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Blanc large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Michaël Caillou, bonjour.
Bonjour.
Frédéric Morel, bonjour.
Bonjour.
Voilà, on fait une petite exception dans cette émission en recevant deux personnes, deux artistes qui nous convient au crochetant à un foisonnement naturel. Les murmures de la forêt, c'est le titre de cette exposition autour de Bambi. Alors, c'est peut-être un peu court de dire autour de Bambi, Michaël Caillou, mais tout de même, déjà, vous avez le mérite de nous rappeler que Bambi, avant d'être un Disney, c'est un livre et qu'il a 100 ans, enfin, il a eu 100 ans.
Il a eu 100 ans. En 2023, et en fait c'est à l'occasion de la sortie de ce livre donc qui fêtait les 100 ans cette année que j'ai eu l'occasion de proposer à Frédéric de venir avec moi au Crochetant et d'exposer ensemble nos œuvres et d'être en immersion dans une sorte de forêt un peu fantasmée.
Fantasmé, foisonnant. Moi, j'ai ce mot foisonnant
luxuriant,
dans la tête. On peut parler de cela aussi.
Un peu inquiétante, un peu parfois solaire. Voilà.
Bon, Frédéric Morel, Bambi, ce personnage qui est dans l'imaginaire collectif, il vous a touché tous les deux ou
ben oui, il nous a touché tous les deux parce que je travaille aussi sur la nature, la chasse, la forêt. Donc le livre mettait en relief aussi le côté inquiétant de la chasse. Et je connais Michael depuis très longtemps et je suis infiniment reconnaissante de m'avoir invité parce que l'expo est merveilleuse.
Alors en effet, c'est une expo originale hein, pour le Crochetant.
C'est original. Alors tout a été fait main dans la main avec Julien Hontou, commissaire de l'exposition. Et en fait, on a créé au fur et à mesure les décors, les œuvres. Pour la plupart, étaient déjà créées parce qu'en fait, le livre est sorti en octobre dernier. Et moi, en plus du livre, donc j'ai fait les illustrations, j'ai fait un travail de gravure et Frédéric a déjà travaillé depuis longtemps autour de pas de Bambi, mais comment on pourrait dire, autour de... Oui, comme
si,
tu disais...
Bambi, c'est mon icône, c'est ma pièce principale.
Voilà, c'est la pièce principale.
Bon, on va expliquer un petit peu. Hein. Vous avez évoqué un livre, on en parlera, vous avez la vraie histoire de Bambi. Vous nous rappelez justement qu'il y a ce roman avant le Disney des années 40. Et puis, vous, Frédéric, alors, vous êtes dans Allez, une sculpture tapissière.
Oui, alors c'est des formes.
Pas pâtissière, tapissière.
C'est des formes réalistes, puisque c'est les formes qui servent aux taxidermistes. Et après, je leur fais raconter une histoire, qui peut être une histoire de l'au-delà, de leur vie passée. Et c'est à base de tapisseries populaires, qu'on appelle parfois les canevas.
Bon, je vais décrire un peu, parce qu'on n'a pas l'image. Hein. Oui. À la radio, on a en taille réelle
des animaux,
principalement des animaux à bois. Hein. On est dans l'univers de Bambi, donc des cerfs, des biches. Et vous avez utilisé le mot taxidermiste.
Oui.
On pourrait imaginer qu'il y a un animal mort sous vos tapisseries. Ce n'est pas le cas. Hein. Les taxidermistes travaillent avec des canevas.
Ils revivent justement parce que les canevas permettent de raconter leur histoire, parce qu'il y a des motifs, il y a des références très connues aussi dans ces motifs populaires. Donc, je raconte une histoire comme une bande dessinée en collant ce textile sur les formes.
Qu'est-ce qui vous plaît dans la tapisserie? Enfin, ce sont des tapisseries anciennes, on voit, ce sont pas des...
Vintage, parce qu'il y en a des très anciennes qui sont plutôt dans le secteur de la décoration, mais... C'est justement ce côté populaire, ce côté que les gens aiment et que tout le monde peut aborder. Voilà. Tout le monde peut aborder.
Ouais, il y a un côté simple d'accès en effet. Il y a un côté un peu désuet aussi dans la tapisserie.
Oui, je l'assume. Je revendique.
Vous utilisez vintage, qui est un mot peut-être un peu plus glamour. Bon, alors ça c'est pour l'aspect en trois dimensions. Hein. Ce sont des sculptures qui ponctuent l'exposition de Michael Caillou. Vous alors, on est dans le dessin d'abord, puis alors vous allez m'expliquer parce que moi j'ai pas les termes techniques. Je suis pas historien de l'art. Tout cela se termine parfois en gravure sur métal, sur du qu'est le métal, du bronze.
Alors c'est du cuivre.
Du cuivre.
Donc en fait moi à la base je travaille tous les dessins. En fait là en l'occurrence c'était donc on parlait du livre tout à l'heure. Moi je dessine tout au feutre fin et après j'ai plusieurs particularités dans mon travail, c'est que à la base ces dessins sont faits pour que je puisse faire mes gravures. C'est-à-dire qu'en fait c'est des ébauches, des croquis à la base qui sont devenus après du design, parce qu'en fait au fur et à mesure du temps des éditeurs sont venus me voir en me disant mais vos dessins nous intéressent pour des éditions. Donc premièrement j'ai fait les illustrations de ce livre et j'avais envie, parce qu'en fait moi je connaissais pas Bambi, l'histoire de Bambi en fait en réalité, parce que ma mère m'a fait zapper.
Alors ça on en parlera tout à l'heure, c'était intéressant.
Parce qu'elle voulait pas que je vois, donc j'ai jamais vu Bambi, en tout cas quand j'étais petit. Et donc du coup, De La Chaux m'a proposé il y a 2 ans de faire ce livre. L'éditeur. J'ai découvert cette histoire. Il y avait beaucoup de similitudes avec je ne suis pas un chevreuil, mais j'ai été élevé tout seul par ma mère, etc. Et au départ, je me suis un peu identifié à Bambi. Je me suis dit, c'est presque moi, mais bon,
on va parler de Bambi et de son impact. Hein, tout à l'heure, on a tous un petit traumatisme probablement lié à cette histoire-là.
Moi, j'ai pas eu ce traumatisme.
Dans votre travail, vous disiez, il y a une partie un peu cabinet de curiosité comme ça où on voit les dessins en détail des animaux, hein. C'est le début de l'expo d'ailleurs.
Alors c'est le début de l'expo, en fait c'est un côté un peu didactique, dans le sens où en fait on montre comment je travaille,
des différents animaux qui ensuite vont être intégrés.
Je pars toujours du dessin et après ça devient soit des gravures, soit des sculptures, plutôt des bas-reliefs, soit des illustrations, soit ça peut aller jusqu'à l'édition de produits. Moi j'aime bien un peu avoir une vision à 360 degrés de mon métier. Et donc là, quand on m'a proposé de faire l'illustration et que j'étais un peu touché par l'histoire, j'ai eu envie de travailler sur la gravure, qui est plus mon travail personnel plastique. Et donc là, j'ai fait mes dessins, j'ai reproduit mes dessins par la gravure, en découpant le métal, en gravant, en imprimant et en mettant en relief mes cuivres, qui devient un peu une sorte de bas-relief.
Ouais, ça, il faut expliquer. Voilà. Hein, les cuivres, donc, c'est ce qui permet d'imprimer une série de... Comment on appelle ça? De gravures.
De gravures moi, c'est des gravures à l'eau forte.
Voilà. On les numérote, ça c'est le principe. Et puis après, dans l'éthique du métier, on devrait les tracer ou les détruire pour pas pouvoir les reproduire à l'infini et qu'elles perdent de la valeur pour ceux qui les ont achetées, acquises. Vous dites, bon, non, je vais pas tracer, c'est quand même du boulot, mais je vais en faire une autre œuvre en fait.
À la base, si vous voulez, moi ce qui m'intéressait quand j'ai fait la gravure, c'était la matrice en cuivre. qui devenait une sorte de bijou. Voilà. Et donc, effectivement, quand on fait de la gravure, on détermine un nombre d'exemplaires d'impression et on raye la plaque pour déterminer la
par
valeur.
Honnêteté,
voilà,
en fait,
voilà, voilà. Par honnêteté. Ouais. Et puis, moi, effectivement, je vais pas rayer parce qu'en fait, au préalable, je les découpe. Donc, c'est beaucoup d'heures de. En fait, j'ai fusionné deux techniques, la découpe du bijou à la main et la gravure à l'eau forte. Et donc, du coup, je passe énormément de temps à préparer mes plaques. Donc, évidemment, j'avais pas envie de les rayer.
Ouais, mais c'est pas deux coups de scie, hein. C'est vraiment pointilliste, voilà, ce que vous faites. C'est de, ouais, la dentelle, hein.
Et donc, pour ne plus imprimer, parce que je reste quand même, c'est pour moi, c'est au code de la gravure, au lieu de les rayer, je les met en volume par des systèmes de repoussage, de ciselage, qui est des techniques de bijoux. Donc je mélange vraiment le bijou et la gravure à l'eau forte. Voilà.
Vous êtes un artisan-artiste, un artiste-artisan?
Je serais mon propre artisan. Donc voilà. Non, je dirais que plasticien. C'est qu'en fait, ce que j'aime bien, moi j'ai eu des formations, Frédéric était un de mes professeurs. Donc,
oui, il y a cette relation entre vous.
Moi j'ai fait une école où on touchait tous les supports, en fait, où il n'y avait pas de limite entre tel ou tel secteur, on va dire. J'ai même fait un peu de mode, j'ai même un peu. C'était une époque où on gravitait un peu sur l'environnement. Voilà. Donc,
ça s'appelait mode et environnement.
Voilà, c'est ça. Mais voilà, je vais plus aller dans la plasticité, plus dans la gravure et parfois plus dans le design. Pour travailler avec des éditeurs.
Je vais vous donner aussi un peu des cours maintenant.
J'en ai donné
la pédagogie. Bon, mais en tout cas, vous, Frédéric Morel, c'est une part importante de votre vie d'artiste, hein. La pédagogie, le fait de transmettre.
Oui, et la transmission, bien sûr, c'est un mot qu'on emploie bien beaucoup en ce moment, mais c'est absolument nécessaire si on veut faire la chaîne des savoirs, la chaîne des excellences, parce que là, c'est un peu ça. Je rappelle, Michael était un étudiant, exemplaire, et il a poursuivi, il a su ouvrir sur sa vie d'artiste, sur ses thèmes qui étaient déjà embryonnaires dans son travail et qu'il a su développer parfaitement dans la durée.
C'est pas commun, je suis pas vraiment baigné dans ce monde-là, mais c'est pas commun, une ancienne professeure qui expose avec son ancien étudiant.
À ce niveau-là, on n'apprend plus, c'est un dialogue entre le professeur, entre guillemets, parce qu'il ne professe pas, en fait, il essaye d'organiser ce qui est proposé par l'élève.
Voilà. Et maintenant, vous apprenez de votre ancien élève.
Exactement.
On va dire disciple, c'est bien disciple.
Oui, disciple, je ne sais pas. Parce...
Moi, je dirais un peu mon mentor. Ouais. Et en fait, moi, pour moi, c'est un peu, par exemple, cette exposition, le fait que Julia ait accepté Frédéric dans l'aventure, j'ai l'impression d'arriver à une étape. Moi, je rêvais de faire une exposition avec Frédéric parce que je la suis depuis très longtemps. Enfin, je la suis à l'école déjà. Je savais qu'elle faisait des créations. Alors à l'époque, elle faisait pas ça, mais déjà c'était très. Je m'interrogeais comment elle pouvait faire ces espèces de structures de feutres très très blanc, mais en même temps avec un raffinement. Donc j'ai toujours été. Et puis en fait, j'ai eu un crush avec elle quand j'étais à l'école. Et donc du coup, moi, quand j'ai découvert ce travail, il y a quand même maintenant pas mal de temps, travail sur le canevas, je sortais presque de l'école. T'étais déjà en parallèle.
Ça se concrétise maintenant avec une exposition commune. On travaille ensemble. Comment ça se passe? On va faire une exposition ensemble. Quel est le déroulement finalement? Vous avez un thème commun. Pour l'occurrence, c'est Bambi, c'est la forêt, les cervidés. Et vous travaillez chacun de votre côté, vous vous rencontrez, vous vous montrez ce que vous faites. Comment ça se passe?
Là, en fait, le travail était. La question était de savoir comment associer. Puis en plus, il y avait aussi Maya, j'en parlerai après, qui a fait un travail de motion design sur le livre. Donc c'est mon ancien élève. Donc il y a.
On va appeler ça de la vidéo,
de la vidéo. Et donc il y a un dialogue. Mais en fait, nous, on a échangé par des mots. En fait, on s'est dit, on veut quelque chose qui soit immersif, où on rentre dedans, quitte à que ça soit brouillé, que ça soit du mimétisme de l'animal sur le mur. Et donc, on s'est dit, on partait sur une forêt un peu. autour des quatre saisons quand même, qu'on ait une sensation, parce que le livre c'est quand même un éternel recommencement.
Moi j'ai jamais vu ça non plus, mais c'est, il y a derrière les œuvres des papiers peints qui ont été réalisés exprès pour, pour l'expo, hein, qui sont dans cet univers-là, qui ont les couleurs chaudes de l'été, de l'automne, froides de l'hiver.
Alors c'est pas des papiers, enfin c'est des papiers peints parce que c'est le support.
Oui, j'avais peur en utilisant le mot papier peint qu'on me dise, mais non monsieur, c'est pas du papier peint.
C'est pas du papier peint parce qu'en fait c'est pas vraiment au raccord, mais c'est des panoramiques, on va dire. C'est des, mais c'est le, en fait, normalement, ça peut être de la toile ou là, c'est du papier peint parce que techniquement, c'était. Mais ça pouvait, effectivement, les gens pourraient.
Fondu de Bondy pourrait très bien décorer son salon avec ce papier.
Parfaitement, hein, parfaitement.
Si vous rencontrez un psychopathe de Bondy,
faut avoir
lancé un business de papier peint. Soyons clairs.
Bon, moi, j'en ai déjà fait du papier peint. Hein, c'est un des exemples. Mais là, pour le coup, c'était de panoramique, mais c'est le nouveau papier peint, les panoramiques.
Donc, bon,
vous
n'êtes
pas complètement.
Par rapport au lieu, c'est impressionnant. Ouais. Hein, on est vraiment en immersion. C'est le mot que tu employais.
À la galerie du Crocheton jusqu'au 12 juillet. À voir hein, cette exposition. On va continuer à en parler dans la deuxième partie de cette.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Plan large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Voilà, on se retrouve toujours dans cette galerie du Théâtre du Crocheton à Monthey avec cette exposition Les Murmures de la Forêt autour de l'univers de Bambi avec nos deux invités Michaël Caillou et Frédéric Morel, les deux artistes de cette exposition à voir donc jusqu'au 12 juillet prochain à Monthey au Théâtre du Crocheton. Foisonnant, luxuriant, on l'a dit, moi j'ai lu et j'ai vu hein, ce lien avec l'art nouveau, avec alors j'ai regardé un peu, moi j'ai une mémoire artistique de Trivial Poursuite un petit peu hein, mais Klimt, Mucha, j'ai vu des portraits de femmes luxuriants, foisonnants. Est-ce qu'il y a ce lien à la nature aussi dans l'art nouveau?
Alors l'art nouveau, moi je suis plutôt Lalique. Donc en fait, parce qu'à la base, moi ce qui m'intéressait dans l'art nouveau, c'était les peignes. Moi j'ai tout un travail autour de ça, c'est le point de départ de mon travail, on va dire, artistique. Et après ça a évolué, en fait c'est des codes, c'est-à-dire qu'en fait l'art nouveau c'est un peu une façon de composer, le végétal devient la structure. En fait, l'art nouveau, c'est la structure devient esthétique. Et donc moi, je me suis surtout inspiré pour mes plaques de métal en fait, où d'un seul coup c'est une seule pièce et tout s'enchaîne. Voilà. Ouais. Et donc c'est là où l'art nouveau pour moi est. J'ai pas forcément nécessairement dans la représentation humaine, même s'il y a des parties de corps. Moi, je travaille beaucoup les ex-voto, etc. Toi non plus. On la retrouve des fois dans les.
Il y a des mains, il y a des.
Voilà. Mais c'est évoqué, c'est-à-dire que de toute manière.
Bon, là, on est dans l'univers de Bambi où on sent que l'homme n'est pas loin, hein, parce qu'il est le méchant dans l'affaire.
Il est là, il est partout. Il est partout.
Il est sous-entendu.
Sous-entendu par le danger, par exemple, il y a des représentations avec des serpents pour Frédéric. C'est le danger, et puis bon, de toute manière, dans le roman initial de Félix Salten qui a écrit Bambi, c'est un roman d'éducation pour montrer que la nature n'est pas si merveilleuse que ça. Au contraire, elle peut être dure en réalité. Donc
on va revenir à Bambi, mais j'aimerais juste un mot encore. Frédéric Morel, on s'inscrit forcément dans l'histoire de l'art quand on crée, on a des références en tête, ou est-ce qu'il faut, une fois qu'on les a étudiées, qu'on les connaît, il faut les balayer, il faut les mettre de côté?
Quand on n'a pas de référence, on est dans l'art brut, qui est d'ailleurs un merveilleux musée à Lausanne. On a des références très fortes à l'art en général, et on se situe, ou pas d'ailleurs, mais il y a une influence.
En l'occurrence, c'est Julia hein, qui a fait le dossier que moi j'ai lu, et probablement qui a illustré un peu cette exposition, et c'est elle qui m'a amené vers cette notion d'art nouveau. Elle est importante, cette notion, pour vous, au moment de la création?
C'est mon point de départ. C'est qu'en fait, moi avant, j'étais, j'ai eu plusieurs carrières, on va dire, où j'ai toujours travaillé personnellement sur mes thématiques, etc. Mais à un moment donné, j'ai eu envie de travailler justement cette gravure, ce travail de découpe en métal. Et mon point de départ, c'était une exposition aux Arts Déco où il y a une pièce permanente de bijoux. Et j'avais vu ces fameux peignes sur le mur, et donc je me suis dit je vais travailler la gravure comme des bijoux muraux. Et donc c'est toujours là. Mais moi depuis longtemps, mes thématiques c'est mes vacances. Je dessine tout, partout où je suis. Donc en fait, je pense qu'inconsciemment elle revient dans mon travail. Mais ça fait longtemps que l'Art Nouveau est sous-jacent, mais pas forcément. À chaque fois, je vais pas me dire ah. Là, je fais de l'art.
Il faut que je sois un peu plus art nouveau, voilà.
Pas du tout. Mais c'est pas le principe.
On crée son univers avec son bagage.
Existe avant, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, l'esthétisme. Ça m'a toujours intéressé. J'adorais. On a eu des cours sur Guimard, sur les. Moi, je suis très déçu à Paris. On a retiré, par exemple, toutes les entrées de métro. Art nouveau, par exemple.
Des choses très très bonnes. Mais peu.
Donc voilà, il y a à côté un côté désuet dans mes goûts, voilà, de
nostalgie. Une nostalgie. Bon, parlons de Bambi. Hein, quelle affaire ce Bambi. Je vous en veux un petit peu de m'avoir remis dans mes traumatismes d'enfant. On a tous.
Oui, moi aussi. Traumatisme.
Mais oui, bon,
moi,
voilà.
J'ai pas eu de traumatisme.
Oui, mais justement, c'est intéressant parce que je me demandais en venant vous voir, est-ce qu'on peut encore montrer Bambi là pour le coup le dessin animé ou lire le livre, parce que la cruauté, j'imagine, du meurtre de la maman. Hein, on va dire les mots et là dans le livre aussi bien sûr, est-ce que c'est encore abordable pour un enfant du 21e siècle? Même on a voulu vous éviter ça.
Alors je pense que c'est extrêmement moderne, surtout avec les évolutions pédagogiques, je ne sais pas comment dire parce que moi je n'ai pas d'enfants, mais je vois mes amis autour de moi qui ont beaucoup d'enfants. C'est à la base, Félix Salten, pour lui c'est un roman d'éducation. Donc et il faisait parler les animaux pour dire des choses. C'est vrai que moi j'avais une lecture assez, on va dire, neuve. J'avais pas forcément connu
le dessin animé, vous l'avez pas vu, donc vous n'étiez pas dans cet univers-là. Ouais.
Alors après, si vous voulez, j'ai des images, c'est-à-dire que je voyais Bambi, on m'en a parlé, il y a la mort de la mère, etc. Mais c'est vrai que moi, je l'ai vu, mais tardivement, donc ça m'a pas perturbé plus que ça.
Mais ça, je pose cette question parce qu'on a quand même une littérature destinée aux enfants. Si on prend les contes du 19e, c'est extrêmement cruel. La mort est là, toujours. Et puis, on a dilué ça au 20e siècle, on s'est éloigné de la mort. Vous nous le démontrez là avec Bambi.
C'est ça que moi c'est quelque chose qui il y a quelque chose qui me fait peur, c'est la mort évidemment. D'aller mon travail c'est justement hier on me disait c'est assez marrant parce qu'il y a quand même assez un contraste avec le travail de Frédéric qui peut parfois être plus inquiétant. Moi mon travail beaucoup plus on va dire de façon extérieure plus facile, plus
dans enfantin. Le livre, comme dans l'expo, enfants vont pas être confrontés à une image de mort brutale.
Non,
il y a pas de sang qui gicle, etc.
C'est plutôt de l'humour, je pense. Mais en fait, il y a quand même une thématique qui, moi, c'est des natures mortes, par exemple. Je travaille, ma signature, c'est la mouche. Donc déjà, c'est quelque chose qui était pas forcément, qui était en lien avec mon travail personnel. Et après, je pense que avoir peur, c'est pas forcément nécessairement bien. C'est-à-dire qu'en fait, il faut aussi que les. Moi, j'ai perdu ma mère assez tardivement, et justement, ma mère m'a tellement protégé que ça a été un énorme choc. Donc parfois il vaut mieux savoir ce que c'est, enfin de façon pédagogique. Et c'est vrai que ce genre de livre, quand on le lit, on dirait que la violence elle est plus entre les animaux que finalement. Et c'est vrai que Walt Disney en a fait quelque chose de très édulcoré, parce qu'en fait finalement ce qui est choquant dans ce dessin animé c'est la mort de la mère, mais c'est quasiment ce qu'il a gardé uniquement de l'histoire. Alors que si on lit l'histoire globalement, on est dans un roman.
C'est ce qui a marqué tout le monde.
Voilà, on est dans un roman qui est tout à fait. Il se passe plein de choses. C'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas que la mort de la mère. La mort c'est une une anecdote dans le livre. Après, c'est vrai que cette histoire, moi, ce qui m'a intéressé, c'est que, en fait, c'est un truc qui est difficilement supportable, c'est que le roman lui-même a été auto-daffé en 1933.
Voilà, il faut expliquer, voilà. Hein, auteur et, juif, et viennois, voilà, et expatrié en Suisse.
Voilà, d'ailleurs. Exactement. Et donc, je trouve qu'en résonance avec la société actuelle, le fait de censurer quelque chose, ça m'a. Je me suis dit, bah non, faut en parler, faut parler de cette histoire. Et c'est vrai qu'on a Walt Disney, mais que le roman est beaucoup plus plus intéressant, on va dire moins.
Bon, c'est un hold-up, voilà. Walt Disney. Hein
C'est un hold-up.
Frédéric, oui, un mot là, il a déjà l'acquisition. Enfin, il était un peu désespéré, hein, l'auteur du livre.
Il avait besoin d'argent.
Fin de vie, il avait besoin d'argent. Les droits ont coûté très peu cher. Et puis, ce film en 1942 a complètement occulté le livre.
Occulté et oui, pour 1000 francs. Je pense que malheureusement Félix Salten n'a pas bien vécu à la fin de sa vie. Il a fallu qu'il travaille, qu'il fasse beaucoup d'écrits. Parfois, c'est aussi un personnage un peu trouble. Le fait qu'on censure une œuvre comme celle-ci en disant que les Allemands seraient les chasseurs et que c'est un peu, bon voilà,
c'est étrange.
Moi, j'ai pas eu cette lecture-là.
Lui-même est chasseur, donc. C'est une espèce de confrontation.
Donc c'est pas forcément les méchants, les chasseurs.
Pas. En fait,
lors de la vie, on dirait.
Laissez parler Frédéric un peu. cet ancien disciple qui monopole le crachoir, c'est fou ça.
Non, c'est justement, moi, je suis invitée et je me laisse bercer par ces thèmes communs. Mais voilà, dans le livre de Salten, c'est quand même tous les thèmes un peu de la vie avec leur ambivalence. Il y a une ambiguïté entre le fait d'être chasseur et de parler avec la forêt. Mmh.
Voilà. Vous êtes des personnages de nature. Vous êtes tous les deux parisiens, hein, je crois.
Moi, je suis né à Paris.
Ouais, ouais, parce que moi, il y a un truc qui me frappe aussi quand je vois l'aspect foisonnant. Alors moi, depuis que j'ai un petit chien, je vais beaucoup me balader dans la nature. Et l'empreinte de l'homme est partout. Et le foisonnement, tel qu'on le voit chez vous, tel qu'on le voit chez le douanier Rousseau, par exemple, même si c'est un peu plus exotique, il n'existe plus vraiment. On n'entend plus tellement de bruit. Les animaux se sont retirés. On les a chassés loin. Il y a un rapport à la nature chez vous? Ou il est imaginaire, il est lointain?
Alors il y a un rapport à la nature, parce qu'en fait je vis à Paris, mais je pars en vacances, je voyage, je vois les, voilà. Alors c'est vrai que la nature, c'est plus à Paris, c'est plus dans les parcs, etc. Mais il y a un côté très fantasmé, parce que c'est quelque chose que moi je n'ai pas connu de façon au quotidien, voilà. J'ai suffisamment voyagé pour un peu.
Bon, je vous fais pas de procès en citadin qui n'aurait pas le droit de parler de la nature. Vous nous proposez de très belles images, hein, qui font appel à notre imaginaire d'ailleurs pour figurer ces murmures.